France, Russie, anatomie d'une passion.
La fermeté de Macron dans le dossier ukrainien et les menaces de Poutine font plonger la relation entre la France et la Russie dans des eaux dangereuses, des relations glaciales, un nouveau chapitre d'une longue histoire passionnelle qui lie les deux pays, les deux peuples.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historienne Sabine Dulin.
Épisode 6, 2025, la rupture.
Il y a encore des gens qui veulent revenir au temps de Napoléon. Ils ont oublié comment ça s'est terminé.
Vladimir Poutine.
Je pense qu'il fait un contresens historique, et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples.
Emmanuel Macron.
Dernier épisode de notre conversation avec Sabine Dulin sur les relations passionnelles entre la France et la Russie. On était là dans un échange à distance, parce qu'il ne se voit plus depuis 2022 entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, qui se balancent la figure de Napoléon l'un à l'autre. Comment l'historienne que vous êtes a entendu cet échange à distance entre les deux chefs d'État ?
C'est intéressant. Alors, je suis assez d'accord avec Macron quand même dans l'échange. Alors, on comprend bien du côté de Poutine, hein, c'est toute sa rhétorique, hein, c'est l'idée de la défense existentielle de la Russie. Donc, la Russie est attaquée et elle est en menace de disparaître et donc il faut la défendre, quitte à conquérir tout autour. Et évidemment, dans cette vision-là, il y a deux grandes guerres patriotiques qui comptent. Il y a celle du peuple russe contre Napoléon, lorsque Napoléon et sa grande armée arrivent jusqu'à Moscou. Et il y a l'attaque de Hitler en 1941 et donc la résistance des soviétiques qui reconquiert ensuite toute l'Europe centrale et orientale jusqu'à Berlin. Donc, face à ça, évidemment, je pense que Macron a raison de parler d'impérialisme et de révisionnisme. C'est une manière de rappeler là une autre référence historique, qui est la référence justement de l'entre-deux-guerres des années 30, puisque en fait, tout ce qui se passe depuis 2014, l'annexion de la Crimée, la mise en place de républiques dites séparatistes à l'est de l'Ukraine et la remise en cause des frontières de l'Ukraine, ça rappelle bien évidemment ce qu'a fait Hitler avec la Tchécoslovaquie dans les années 30 avec la conférence de Munich, l'annexion des Sudètes, puis l'annexion de la Bohême, puis la disparition de la Tchécoslovaquie. Et donc là, évidemment, quand Macron évoque le révisionnisme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, à l'époque, Hitler voulait réviser le traité de Versailles et il a conquis la Tchécoslovaquie, et ça a mené à la guerre mondiale. Et aujourd'hui, Poutine veut réviser tous les textes issus de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc lui, il renvoie à une autre histoire. Pas celle de Napoléon, mais celle
plus récente de l'entre-deux-guerres. Revenons à l'an 2000, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir. Est-ce qu'il y a, dans les chancelleries françaises, occidentales et françaises en particulier, plutôt une forme de confiance envers Vladimir Poutine au départ ? Ou est-ce que dès le début, on sent que les relations franco-russes vont connaître un regel après l'amélioration des relations ? J'avais cité en fin d'épisode précédent Jacques Chirac en 97 évoquant les relations uniques entre les deux peuples. Ou est-ce que Vladimir Poutine, c'est une rupture dans cette histoire-là ?
Je ne crois pas, parce que Poutine arrive comme dauphin de Yeltsin. Il n'est pas particulièrement anti-occidental à l'époque. Bon, certes, c'est un homme du KGB, mais il semble être dans le droit fil de son prédécesseur. Et de ce fait, il n'y a pas véritablement de changement. Vous évoquiez le voyage de Chirac de 97. Oui, ça, c'est un moment très important parce qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui, puisqu'il y a toute la rhétorique anti-occidentale de Poutine. Oui. Mais sur le fond, de 1997 à 2008, on va dire, on est dans une période où il y a plutôt la construction d'un partenariat à la fois dans le G8, entre la Russie et les autres grandes puissances, un partenariat entre l'OTAN et la Russie, un partenariat entre la Russie et l'Union européenne. Et 97, c'est aussi la fin de la première guerre de Tchétchénie. Et en même temps, dans les années suivantes, il va y avoir toute la lutte contre le terrorisme qui va faire qu'on ne va pas voir la deuxième guerre de Tchétchénie, pas trop, parce que ça fait partie de cette lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale depuis l'attentat des deux tours de 2001. Donc, au fond, il n'y a pas trop de problèmes. Et puis, dans certains cas même, il peut y avoir des accords profonds, un peu contre les Américains. Par exemple, en 2003, lorsqu'il y a la guerre en Irak et le fameux discours de Villepin, le ministre des Affaires étrangères de Chirac à l'ONU pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce que proposent les États-Unis. Bon, ça ne peut que plaire aux Russes.
Oh, mais
et on peut même aller un peu plus loin, parce que si on va jusqu'à Sarkozy en 2007-2008, Sarkozy, d'abord en 2007, il donne l'autorisation aux Russes de construire leur cathédrale juste à côté de la Tour Eiffel.
Oui.
Hein, on la voit bien maintenant, elle est quand même
au cœur de
Paris,
on la voit bien,
avec ses 5 bulbes dorés.
Certains considèrent que c'est une magnifique occasion d'écouter ce qui se passe à Paris.
Voilà, exactement, on l'appelle souvent maintenant la cathédrale Saint-Vladimir, parce que Donc ça, c'est un accord avec Sarkozy en 2007. 2008, Sarkozy se fait le médiateur dans la première guerre que lance Poutine.
En Géorgie.
En Géorgie, alors que le président de Géorgie est très pro-européen, pro-OTAN, et voudrait en fait aligner la Géorgie sur... candidate, en fait, pour une entrée future dans l'Union européenne. Ça inquiète beaucoup en Russie, où on a peur de la révolution sur les frontières de la Russie. Et c'est là où la France joue son rôle aussi, parce que certes, bon, maintenant c'est l'Union européenne, mais c'est des valeurs qui sont celles aussi qui avaient été portées par la France jusque-là. Or, je veux dire, dans ces années 2000, on va avoir la révolution des roses en Géorgie.
Oui, les révolutions colorées.
Voilà, qui fait tomber un président corrompu et pro-russe. Et on a la révolution orange en Ukraine qui fait tomber là aussi une première fois, Yanukovych, le président pro-russe,
est corrompu. Et là, la France est peu présente.
La France est peu présente.
Les États-Unis davantage, oui.
Les États-Unis sont plus là. Mais en revanche, du point de vue des Russes, certes, il y a la main des États-Unis, mais il y a aussi cette présence des valeurs de l'Union européenne qui sont juste à la frontière et qui sont dangereuses pour ce que Poutine est en train de construire, c'est-à-dire un régime autocratique qui n'a rien à voir avec la démocratie telle qu'elle peut s'appliquer encore.
Mais à vous écouter, la France demeure soit aveuglée, soit pragmatique, mais laisse faire Poutine, y compris dans le dossier géorgien, en lui finalement permettant de conquérir des petits territoires, mais tout de même, en Géorgie. À quel moment est-ce qu'il y a une prise de conscience du danger russe de la part de la France? J'ai l'impression qu'il a été assez tardif.
Alors, c'est progressif, oui, parce que, bon, il y a le premier discours très anti-occidental de Poutine. Ce sera en 2008, lors de la conférence sur la sécurité européenne à Munich.
Ouais.
Mais il faut bien voir que du point de vue français, il y a toujours ce petit ton anti-américain de lutte contre l'hégémonisme américain qui peut plaire à certaines parties de l'opinion française. Mmh. Donc oui, bien sûr, il y a cette dimension-là qui est forte en France et qui a sans aucun doute pu aveugler assez longtemps. Il ne faut pas oublier même qu'il y a eu cette affaire des Mistral, c'est-à-dire qu'en 2010 encore, on fait des contrats pour donner des Mistral, donc ces porte-avions français, on les vend aux Russes. Et le premier Mistral, il arrive, qui s'appelle Sébastopol, je crois, il arrive en juin 2014, alors même qu'on vient d'avoir l'annexion de la Crimée, qu'on vient de voter des sanctions contre la Russie. Alors, on va finir par annuler ce contrat.
C'est François Hollande, président de la République,
en 2015,
qui va annuler le contrat.
Voilà. Mais en 2014, on est encore dans une volonté de médiation, puisqu'il y a le fameux format Normandie.
Oui.
Donc, après l'annexion de la Crimée et le début du soutien russe aux forces séparatistes dans l'Ukraine orientale, il va y avoir la mise en place de ces accords de Minsk pour essayer d'établir un cessez-le-feu, pour essayer de
statu quo,
d'éviter l'engrenage. Ces accords de Minsk, ils vont être supervisés par les Français et les Allemands et l'OSCE, l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe. Mais tout ça se fait, on l'appelle le format Normandie, parce que ça se fait au moment du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, et moment où on a quand même cette photo magnifique du grand Porochenko, qui était à l'époque le président ukrainien avant Zelensky, et du petit Poutine à côté, parce que Porochenko est très très grand, donc on a Poutine et Porochenko qui se regardent en chien de faïence, puisqu'ils sont aux festivités du débarquement en Normandie, et ça se passe évidemment en juin 2014, 3 mois après l'annexion de la Crimée.
Et c'est intéressant parce qu'on a raconté, on arrive presque au bout de notre récit, mais on a raconté 300 ans, même davantage, 350 ans, presque 400 ans de relations franco-russes, et on voit la permanence de l'histoire en tout le temps. C'est-à-dire que c'est au moment du débarquement que la France joue encore son rôle auprès des Russes. On évoque la figure de Napoléon, on évoque la Grande Guerre patriotique. Est-ce que cette histoire partagée, qui peut être parfois antagoniste ou d'alliance, elle explique l'état des relations franco-russes en tout cas en 2014. On va arriver sur la rupture de 2022, mais en tout cas jusqu'en dans ces années-là, c'est-à-dire qu'on sait qui est Poutine, mais il y a encore peut-être, parce qu'on a une histoire partagée, une relation particulière avec la Russie.
Oui, et surtout, je pense que là, le ciment... Il y a toujours eu des ciments dans la relation franco-russe. Oui. Il y a eu le ciment anti-allemand assez longtemps, à la fin du... enfin, pendant l'alliance franco-russe. Et sans aucun doute que dans la relation franco-russe depuis le gaullisme et le communisme, il y a cet anti-américanisme qui joue un rôle important et qui fait qu'elle peut perdurer. Et puis après, il y a aussi toujours la relation culturelle qui continue, c'est-à-dire que... on a de fortes relations culturelles entre la France et la Russie. Moi, je me souviens d'avoir été regarder toutes les mises en scène de Lev Dodin, qui était un très grand metteur en scène de théâtre russe, qui passait à Bobigny. Donc, on avait un mois entier de Lev Dodin à Bobigny. Dodin qui a dénoncé la guerre lorsqu'elle a commencé.
Et en 2017, quand Emmanuel Macron est élu président de la République, il est face à trois candidats, François Fillon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui ont un regard plus sympathique, envers, en tout cas plus positif, envers la Russie. Pour autant, quand Emmanuel Macron est élu, il déroule le tapis rouge à Vladimir Poutine, le recevant notamment à Versailles. Ça racontait quoi, ce moment-là, selon vous ?
Alors, il y a aussi, peut-être, du côté du président français, une illusion qui est de croire que la France continue à peser lourd.
C'était plus le cas.
Je crois que la France toute seule, elle pèse quand même pas très lourd. Alors,
mais quand on invite Poutine à Versailles, c'est pour lui raconter quoi ? Que la France a été grande ou que nos pays ont été alliés ou...
Bah les deux, je pense. Hein, l'idée, c'est de continuer à capitaliser sur à la fois une relation ancienne, des périodes d'histoire qu'on a vécues en commun, et puis sans aucun doute la volonté de montrer qu'on est une puissance qui continue à compter sur le continent européen. Et c'est vrai que du point de vue des Russes, la France continue à compter, notamment, alors c'est plutôt qu'on continue à parfois à vouloir que ses enfants fassent des études en France, qu'on a encore des résidences sur la Côte d'Azur. Bref, la France, c'est quand même le pays de l'art de vivre pour beaucoup de Russes, hein, qui aujourd'hui préfèrent vivre en France qu'en Russie.
Il nous reste quelques instants pour se projeter demain dans l'avenir. Est-ce que l'histoire longue qu'on a racontée, qui est vraiment faite de coups d'accélération, de coups d'arrêt, de rupture, d'avancée, de trahison, de confiance, est-ce qu'elle nous permet d'envisager un avenir plus peut-être florissant dans les relations franco-russes ?
Moi, je pense qu'il faut tabler peut-être sur la dimension révolutionnaire de l'histoire russe et française pour espérer qu'un jour, ce qui a pu se passer en Ukraine puisse se passer en Russie, c'est-à-dire le rejet de la dictature et la volonté d'aller vers une histoire peut-être moins grande, moins spécifique, mais sans doute beaucoup plus sereine pour les habitants. Donc, je pense que nous, on a fait notre... on n'a plus d'empire colonial et il y a eu quand même une volonté de faire un petit peu le ménage sur cette histoire. Et je pense qu'en Russie, ça manque. Et que donc même l'opposition qu'on accueille ici en France, hein, l'opposition russe, les gens superbes de Mémorial qui luttent pour les droits et la liberté en Russie, eh bien ils doivent à un moment donné peut-être réussir à faire entendre qu'une autre Russie est possible à débarrasser aussi bien... des formes despotiques de pouvoir que de cette idée de la grande Russie impériale.
Vous savez ce qu'on dit, un couple, c'est quand deux personnes n'en forment plus qu'une. Oui, mais laquelle ? Est-ce que les Russes peuvent devenir la France et inversement ? Alors, est-ce que vous craignez que la France devienne la Russie ?
Là, vous avez entièrement raison parce que c'est un vrai jeu de miroir et il y a deux possibilités. Soit il y a une fragilisation, une déstabilisation de ce qui est actuellement la Russie et qui va aller donc vers plus de liberté et moins de guerre. Mais il peut y avoir aussi effectivement une exportation despotisme russe vers l'Europe quand on voit le succès des populismes, des extrêmes droites et de tous ceux qui sont très anti-européens, et le retour du fait qu'il faut montrer ses muscles, faire la guerre, être
la force,
puissant, voilà. Donc c'est à voir. Espérons que les premiers l'emportent sur les seconds.
Merci Sabine Dulin, c'était une conversation, je crois, très fertile qu'on a eue ensemble, ça vous a plu ?
Oui, merci beaucoup, c'était très très chouette.
Merci beaucoup, on lira avec beaucoup d'attention votre livre « Réflexions sur le despotisme impérial de la Russie », c'est paru chez Payot. France-Russie, anatomie d'une passion, un podcast original de France Inter.